16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous et surtout à toutes dans Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter et qui souvent vous raconte l'histoire au féminin. Alors aujourd'hui, pour fêter notre 250e émission avec Stéphane, oui, on a voulu rendre hommage à celle qui nous inspire au quotidien.
Super Nana. Non, Michel Jonas.
Non, Stéphane, mais Super Nana.
Mais oui, bien sûr, Mathieu. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Pour la 250e d'Historiquement Vôtre, on fait la fête avec trois super nanas. À commencer par une artiste qui a imaginé des nanas colorées aux formes généreuses, Niki de Saint-Phal, et ses sculptures gigantesques de danseuses qui prônent un discours politique féministe. Puis je vous raconte une femme de radio pas comme les autres, une pionnière des radios libres et certainement la plus libre des animatrices radio. Elle avait choisi comme surnom Super Nana. Elle en était une, vous verrez. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai, je l'espère en tout cas, de la plus super de toutes les nanas.
Oui, Stéphane, dans ce monde où tout fout le camp, où vos idoles s'éteignent les unes après les autres, elles vous aident à tenir, vous dites d'ailleurs souvent...
Il me reste Nana Mouskourius, à qui je parle tous les 15 jours.
Ça vous console un peu du décès très prématuré, il faut le dire, d'André Dassari.
Non, Dany Cordiche.
Ah oui, Dany Cordiche, oui, aussi, oui, vous la connaissez bien.
Oui.
Tous ses amis qui parlent.
Ah là là, chère Nana. Bon, avec nous, comme chaque jour, elle nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde. C'est aussi une super nana, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors vous êtes bien aimable. Écoutez, j'accepte ce compliment, qu'il soit mérité ou non.
Vous avez
alors,
un peu les lunettes de Nana Mouskouri d'ailleurs.
Vous trouvez que j'ai les lunettes de ma...
Bah oui, ça ressemble un petit peu.
Non, absolument
si.
Bon, enfin, comme je sais que Stéphane...
C'est un compliment. Hein.
Oui, tout à fait. Comme je sais que vous l'adorez, je veux bien qu'on me compare à... Allons donc, Nana Mouskouri. Allez, de toute façon, loin de Nana Mouskouri. Moi, je vais vous parler d'un très grand homme. Je vais peut-être un peu refroidir l'atmosphère, mais qui fut un grand adversaire de la France avant de devenir son ami. Un homme considéré comme un héros à la fois en France et en Algérie. Un personnage consensuel et c'est précieux par les temps qui courent. J'ai nommé Abdelkader. Et oui, vous connaissez Abdelkader ?
Oui, c'était un ennemi qui est devenu un
chef, chef guerrier, savant religieux.
Bien sûr, et il a été emprisonné à Amboise.
Exactement.
Il y avait son portrait d'ailleurs.
Et sur ce coup-là, nous les Français, on a pas été du tout au niveau. Je vous raconte ça tout à l'heure.
Et avec nous également David Castello-Lopez qui remonte aux origines des inventions.
Oui, et aujourd'hui c'est quelque chose d'assez simple, hein, c'est le métro. Voilà. D'où ça vient le métro. Je pense que beaucoup de gens autour de la table savent, mais
vous aurez des infos
tout à l'heure. Voilà, exactement.
Évidemment. Olivier Pouls est avec nous aussi, Stéphane. Mmh.
Il remonte aux origines d'une recette, d'un plat, d'un mets, d'une gourmandise. C'est notre chroniqueur gastronome.
Et en plus, je vous fais voyager un peu aujourd'hui. Je vous emmène en Italie où nous allons parler de la panna cotta.
Ah, la panna cotta. C'est bon, ça meurt. C'est,
oh oui,
ça
c'est
va
très...
directement
non,
dans les hanches.
Non, détrompez-vous, pas tellement.
Bah, attends, tu
pas
rigoles. Avec
la gélatine. C'est des œufs, de la crème, du sucre.
Il y a de la gélatine aussi.
Oui, mais la gélatine, c'est là, il y a zéro calorie dans la gélatine, mon cher Mathieu.
Qu'est-ce que c'est que cette idée? Il y a zéro calorie dans la gélatine.
Oui, la gélatine, c'est un gélifiant. C'est pas du sucre, hein, c'est pas des calories.
Bah bon.
C'est pas du gras.
On peut y aller, quoi. Une jelly, c'est bon.
Ouais.
Enfin, aux alentours de 5h-10, nous assisterons au 250e pugilat de cette émission. Bern to be alive, spécial jubilé du 250e anniversaire. Au programme, des questions encore plus vicieuses que d'habitude. Je ne sais pas trop comment on fera, mais on essaiera.
Oh,
mais
je vous
tout
fais
de suite,
confiance.
Découvrons la vie de notre première super nana du jour. Des nanas, elle en a créé. Des nanas sans visage, aux fesses arrondies et aux seins généreux aussi, de toutes les couleurs, flashy. Ses imposantes créations ont imposé son style et ses idées surtout. Stéphane Bern nous raconte l'artiste réaliste et féministe Niki de Saint-Phal, une super nana qui en a exposé dans le monde entier.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Je compris très tôt que les hommes avaient le pouvoir et ce pouvoir, je le voulais. Oui, je leur volerais le feu. Je n'accepterais pas les limites que ma mère tentait d'imposer à ma vie parce que j'étais une femme. Cette profession de foi, c'est celle de Niki de Saint-Phal. Catherine Marie-Agnès Phal de Saint-Phal pour l'état civil, née en octobre 1930 dans les quartiers huppés de Neuilly-sur-Seine et pas forcément préparée à ce discours révolutionnaire. Catherine, rapidement rebaptisée Niki par sa mère, grandit entre les châteaux familiaux en France et les gigantesques appartements de Park Avenue à New York. Son père est issu d'une vieille famille de la noblesse chevaleresque convertie à la banque. Sa mère est une richissime héritière américaine. Sur le papier, une vie rêvée. Mais derrière les rideaux des palaces se cache un environnement violent. La mère de Niki se montre souvent brutale, y compris physiquement. Mais l'horreur arrive un jour de l'été 42. La petite fille a 11 ans et son père la viole. Le couple maintient les apparences d'une famille bien sous tout rapport, mais Nikki étouffe sous cette morale affichée. Dans son école catholique de Manhattan, elle peint en rouge vif les feuilles de vigne qui recouvrent le sexe des statues. Sa scolarité se passe mal. Nikki est agitée, irrévérencieuse. À 17 ans, un agent de mannequin la repère dans un bal. Elle entame une carrière, pose en couverture de Life Magazine et de Vogue Paris dans un épais manteau de fourrure. Nikki est belle, très belle même, avec ses traits fins, ses grands yeux bleus et ses chapeaux extravagants. Au même moment, elle épouse l'écrivain américain Harry Matthews et accouche d'une petite fille. Mais la jeune mariée sombre dans une dépression si violente qu'elle est internée. Harry lui apporte papier, crayon et pinceau. C'est là que l'artiste commence à peindre. Sortie de l'hôpital, Nikki visite l'Espagne avec son mari. En 1955, elle découvre avec émotion le parc Güell de Gaudí, à Barcelone. C'est sa nuit de gêne, à elle. Dans son cœur, elle nourrit le projet de réaliser son propre jardin de joie rempli de sculptures. Nikki rentre à Paris au milieu des années 50. Elle y rencontre le sculpteur et inventeur de machines détournées, Jean Tinguely. Dans son atelier, elle lui suggère d'ajouter des plumes à l'une de ses œuvres. Tinguely est étonné et séduit aussi. Les deux artistes ne se quitteront jamais. Au départ, Nikki de Saint-Phalle peint des huiles plutôt classiques, puis elle se lance dans des tableaux d'assemblage faits d'objets trouvés, de matériaux divers comme la terre, le plâtre, le fil de fer. Autodidacte, elle se nourrit de l'art brut en vogue dans les années 50 et va tous les jours au Louvre. Elle côtoie des artistes et lit beaucoup. Le succès n'est pas long à venir. En 1961, Nikki de Saint-Phalle attire l'attention en France et dans le monde entier pour ses tirs, des tableaux conçus comme des performances à la carabine. Armée d'un 22 long rifle loué au stand de tir d'une fête foraine, la jeune femme fusille ses toiles pour en faire éclater des petites poches pleines de peinture. De la destruction naît la création. Sans l'art, dit Nikki, je serais morte, la tête éclatée. Mais il ne s'agit pas que de survivre, il faut aussi vivre, faire voler en éclats toute l'hypocrisie du monde dans lequel elle a grandi. Cet univers où l'on porte un masque. Moi, je ferai le contraire. Je montrerai tout. Mon cœur, mes émotions, le vert, le rouge, le jaune, toutes les couleurs, revendique-t-elle. Dès ses débuts, Nikki de Saint-Phalle réussit la synthèse pourtant difficile de l'avant-garde et de la reconnaissance publique. Mais la véritable célébrité s'annonce quand, en 1964, elle crée sa première nana. Nikki n'a pas oublié ses envies de sculpture. Alors, elle fabrique une femme avec du grillage et des draps trempés dans de la colle, décorée de laine colorée. Nana, comme le surnom de l'une de ses anciennes nourrices. Nana, comme ce terme populaire qui désigne les femmes. Au fur et à mesure, ses sculptures se professionnalisent. Elles sont en résine de polyester, puis en polystyrène, recouvertes de couleurs vives. Elles sont immenses, monumentales. Une réalisée en 1966 pour le Moderna Musée de Stockholm pèse 6 tonnes. Elle est couchée sur le dos et les visiteurs y pénètrent par son vagin. Les autres nanas sont aussi imposantes et bariolées, mais plus aériennes. Elles sont légères, semblent danser, soulevées du sol, avec grâce, nullement gênées par leur ventre bombé, leurs fesses rebondies et leurs seins gonflés. Elles n'ont pas de visage ni aucun orifice. Elles sont impénétrables, inviolables. L'ange protecteur, par exemple, vole au-dessus de la gare de Zurich comme une plume de 11 mètres et de plus d'une tonne. Son maillot de bain à rayures bariolées est peint à l'eau. Un cœur sur un sein, une fleur sur l'autre. Nikki s'inspire du pop art américain. Elle est aussi une héritière du mouvement Dada et fait partie du groupe des nouveaux réalistes fondé par le peintre Yves Klein et que rejoint aussi Christo notamment. Ensemble, ils prônent un retour à la réalité par opposition à la peinture abstraite sans pour autant tomber dans la figuration. Les nanas ont un succès énorme. Elles s'exportent dans le monde entier, Bâle, Hanovre, Montréal. Elles répondent aussi à une volonté de leur créatrice de sortir l'art des salons, des galeries et des musées pour l'offrir à tous dans les jardins et dans les rues. Nikki de Saint-Phalle est si liée à ses sculptures que parfois elle s'agace de voir son art réduit aux nanas. Leur aspect acidulé les plaît. Elles sont jolies, pop, gaies. Elles se déclinent sur des t-shirts ou sur des tasses, mais sous leur aspect enfantin, les nanas révèlent un sens éminemment plus politique. Dans les années 60, les femmes sont encore majoritairement au foyer. Les femmes artistes existent, mais peu accèdent à la reconnaissance. Nikki de Saint-Phalle porte déjà, par sa présence et son travail, une forme de féminisme. De ses tableaux à la carabine réalisés avant le mouvement de libération des femmes, elle dit « C'était très scandaleux de voir une jolie jeune femme tirant avec un fusil et râlant contre les hommes dans ses interviews ». avec les nanas, Saint-Phal entame une œuvre qui n'est pas immédiatement perçue comme féministe. Pourtant, les sculptures figurent des femmes puissantes, dynamiques, sportives, à l'aise avec leur corps, tout en s'éloignant des canons de beauté, prônés notamment par les magazines féminins. Surtout, elles occupent l'espace public traditionnellement réservé aux hommes. Les nanas s'imposent par leur grande taille, elles dominent le monde de leur assurance. Les couleurs dont elles se drapent dissimulent au premier regard leur subversivité. C'est une armée qui, aux quatre coins du monde, lance gaiement, comme leur créatrice, les nanas au pouvoir, les femmes au pouvoir. L'artiste crée aussi des nanas noires, montrant sa sensibilité, son engagement vis-à-vis de la question raciale aux États-Unis. L'œuvre de Niki de Saint-Phal épouse les luttes de son époque pour les droits civiques et l'émancipation des femmes. C'est aussi ce qui fait son succès. Elle vient parfaitement épouser les années 60, la décennie de la provocation, de la rébellion face à l'ordre ancien, ce que Nana combat aussi de manière plus intime, la famille, le patriarcat, l'Église. En 1971, Niki épouse Jean Tinguely, son complice de longue date. Avec lui, elle se lance dans son grand projet, le Jardin des Tarots en Toscane, un parc parsemé de sculptures gigantesques auquel elle travaille pendant 20 ans. Elle est le chef d'orchestre et son mari l'assiste, une situation assez rare dans le monde de l'art pour être mentionnée. En 2002, Niki de Saint-Phal décède d'un problème respiratoire lié aux produits et matériaux utilisés sans protection pendant toute sa carrière. Dans son jardin italien, dans lequel elle a montré qu'une femme pouvait faire aussi bien que Gaudi, figure en bonne place une nana. Niki est partie, mais Nana, elle, continue de danser sur les toits.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour en savoir plus sur Niki de Saint-Phal, nous avons le plaisir d'accueillir l'écrivain et philosophe Gwenaëlle Aubry, qui en fait l'héroïne de son dernier livre. Bonjour Gwenaëlle.
Bonjour.
Bonjour Gwenaëlle Aubry, vous venez en effet de publier Saint-Phal, monté en enfance aux éditions Stock. Pour vous, qu'est-ce qui fait de Niki de Saint-Phal une super nana ?
De nombreuses choses. C'est son sens de la, son goût violent pour la démesure, pour le colossal, le monumental, son appétit de vie, c'est cette pulsion vitale en fait, cette pulsion vitale et cette puissance de métamorphose que je traque à travers le livre. Sa puissance de conjuration aussi, Niki de Saint-Phal porte en elle une enfant abîmée, une enfant saccagée, et de cette petite fille en miettes, elle a fait surgir une œuvre extrêmement puissante et multiforme aussi.
Le titre de votre livre est beau et il est important, « Monté en enfance ». Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur cette grande figure de l'art contemporain ? Il faut préciser donc que ce livre n'est pas une nouvelle biographie de Niki de Saint-Phal, mais un essai sur l'impact de son enfance sur sa vie et sur son art.
Oui, je vous remercie de souligner ce sous-titre qui pour moi en effet est important. En fait, il y a deux fantômes très vivants d'ailleurs dans ce livre. Il y a Niki de Saint-Phal et il y a aussi la petite, enfouie, oubliée ou fugitive, dont je traque les traces plus ténues que celles de Saint-Phal au travers de ce livre, au travers du Jardin des Tarots.
Oui, parce que Niki de Saint-Phal, Stéphane l'a raconté dans le récit, elle a été la proie d'un père incestueux, voilà, à 11 ans. Elle a subi aussi la violence de sa mère, ça fait vraiment beaucoup. Finalement, est-ce qu'elle a réussi, d'après vous, à se remettre de son enfance ?
Je pense qu'elle a passé sa vie entière à conjurer cette enfance monstre. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle l'a conjurée par l'enfance, c'est-à-dire qu'elle code et elle conjure l'enfance par l'enfance en ayant recours à un langage optique qui fait appel aux légendes, aux mythes, mais aussi bien aux comics américains. Finalement, elle monte plus loin que l'enfance encore. Elle monte au-delà de l'enfance, vers le primitif, vers l'archaïque. Et ce codage enfantin est tout sauf puéril. Vous le disiez très bien tout à l'heure, derrière la surface lisse, colorée, facile des nanas se cachent en fait des puissances moins conciliantes. Bon, ce à quoi elle fait appel dans l'enfance, c'est aussi bien, là encore, l'appétit de démesure, l'appétit toute puissance, la terreur, bien sûr, la cruauté, bon, il y a tout ça. Et en même temps, ce qui m'intéresse aussi beaucoup chez elle, c'est que ce saccage n'est pas non plus la clé de son œuvre. Elle en parle très tard, alors qu'elle a 63 ans, dans l'un de ses textes autobiographiques, Mon secret, alors qu'elle a déjà semé dans le monde entier ses traces monumentales. Et il ne s'agit pas d'en faire la clé de son œuvre. D'emblée, elle installe cet événement, cette fêlure profonde, à la fois sur une scène politique et sur une scène mythique. Sur une scène politique puisque elle interprète le geste de son père, comme dit-elle, une misérable rébellion. Et elle dit qu'il lui suffira, d'une certaine façon, pour y survivre, d'en inverser les signes, c'est-à-dire d'opposer à cette misérable rébellion sa grandiose révolte. Et se faisant aussi passer du côté des dominés, non plus des dominants. Et en même temps, elle installe aussi ce drame sur une scène plus vaste, sur une scène quasiment cosmique ou impersonnelle, et elle fait aussi appel pour la figurer et pour la crypter à des mythes et à un langage en fait extrêmement riche, puisque il y a aussi bien derrière l'art brut, la peinture italienne du Trecento.
Mais alors, elle a tenu, Nikita Saint-Phal a tenu les pinceaux, mais on le voit aussi sur la couverture de votre livre, elle a tenu une carabine pour ses tirs des œuvres où elle fait exploser la peinture. On peut dire qu'il y a chez elle une grande violence. Est-ce que l'art était pour elle le seul moyen d'exorciser ses démons ?
Oui, très certainement. Elle le dit très clairement. Elle dit que du moment où elle tenait à la main un pinceau, ou effectivement un vin de l'horrible...
C'est très phallique en plus, mais...
Mais non, mais absolument. Oui. Donc effectivement, elle tire au vin de l'horrible, elle peint à la carabine, et elle exorcise comme ça. Elle le dit très bien, les tirs, c'est un rituel d'une extrême puissance qu'elle a inventé, qui a surgi comme ça.
On parlait des fameuses nanas, qui sont ses œuvres phares, on peut le dire, qu'elle réalise à partir des années 60. Comment la critique et le public aussi les perçoivent à l'époque ? On est encore peu habitué à voir des femmes investir comme ça l'espace public.
Ah, c'est tout à fait nouveau. Alors, les nanas ont à la fois, là encore, connaissent un succès immédiat. Saint-Phal dit, en s'étonnant presque, qu'elle a touché à travers elle un point d'inconscient du public, le féminisme latent du public. Elle s'en étonne, de même qu'elle regrette un petit peu que les nanas fassent écran au reste de son œuvre. Et en même temps, la réception critique est, disons, assez nuancée. C'est-à-dire que tout en reconnaissant leur puissance, certains les trouvent vulgaires, faciles ou tape à l'œil. Un critique comme Pierre Descartes, à la fois, les replace dans la grande histoire de l'art, les compare aux bacchantes, aux baigneuses, de Rubens, de Poussin, reconnaît que derrière se cachent des figures, là encore, moins conciliantes, des figures mythologiques. Bon. Et en même temps, achève cet article critique par cette phrase « La nana, c'est toujours du travail de dame ».
Mais il y a aussi, vous écrivez d'ailleurs que ces black nanas ne sont pas seulement... Les femmes qui prennent le pouvoir sont des femmes noires.
Absolument.
Donc elle a vu aux États-Unis les conséquences de la ségrégation raciale. On peut dire qu'au fond, elle se situe à l'avant-garde de toutes les luttes dites intersectionnelles d'aujourd'hui.
Absolument. Absolument. Elle articule d'emblée le black power et le nana power. Elle dit très vite, s'ils s'unissaient, ils casseraient tout. Quand elle quitte les États-Unis en 52 avec son premier mari, l'écrivain Harry Matthews, elle quitte en effet à la fois le macartisme et le ségrégationnisme. Matthews et elle ont été très marqués par la lecture d'un roman de Ralph Ellison qui s'appelle L'homme invisible, dont le narrateur est un jeune afro-américain qui prend conscience peu à peu, c'est un roman d'apprentissage de l'invisibilité, on dirait maintenant invisibilisation, dont font l'objet les Noirs américains. Et cette question de l'invisibilité, elle la met très clairement, très littéralement en œuvre, en construisant à la fois des femmes extrêmement visible et qu'elle installe dans l'espace public et des femmes noires, puisque très vite, les nanas sont noires. Elle construit une Black Rosie en hommage à Rosa Parks, même une Miss Black Power qui mesure 5 mètres de haut, enfin qui est absolument, absolument colossale. Elle les donne à voir et pourtant on ne les voit pas. On ne les voit pas, c'est-à-dire qu'on voit les critiques de l'époque voient les nanas. Voir des femmes, c'est déjà... Et si visible, c'est déjà beaucoup, c'est déjà trop. On ne peut pas en plus les voir comme noires.
Comment Nikita Saint-Phal se situe par rapport au mouvement féministe qui émerge dans les années 60 et 70 ? Est-ce qu'elle y prend part ?
Alors, elle s'invente toujours, à mon sens, du moins des postures et des formules singulières. Elle est un petit peu suspecte aux yeux de certaines féministes du fait de son côté, high heels and red lipsticks, rouge à lèvres et talons hauts. Elle est suspecte d'une façon générale, mais pas uniquement aux yeux des féministes, parce qu'elle est très ou trop séduisante. Saint-Phal, c'est le contraire d'une maudite. Elle a d'emblée connu le succès, elle l'a énormément séduit. Bon. Elle invente en même temps une formule que je trouve très intéressante, qui consiste d'une certaine façon à se battre sur les deux terrains et avec toutes les armes. C'est-à-dire effectivement les armes considérées comme étant celles des femmes, donc bon, high heels and red lipstick, les armes masculines. Ce qu'elle formule de façon très drôle, parce qu'elle est très drôle, en disant « porter des beaux chapeaux tout en construisant des monuments plus gros ». Donc il s'agit de se battre sur les deux terrains, de vaincre sur les deux terrains, d'extraire toutes les puissances pour en faire des armes.
Alors, je le disais, elle appartenait à un mouvement des nouveaux réalistes. Qu'est-ce qui caractérise ce mouvement et quelles étaient les autres nanas qui représentaient
le
mouvement ?
Elle est la seule. Elle est la seule. Elle ne le rejoint qu'après le premier manifeste, après justement la première séance de tir, un passeron saint à laquelle assiste Pierre Restany, qui est le fondateur, enfin le critique d'art fondateur des, et théoricien du nouveau réalisme, il est ébloui par les tirs et donc adoube Nikita Saint-Phalle et on voit cette photo où elle pose, seule femme de ce groupe d'hommes, adossée à Tinguely mais en même temps point sur la hanche et le regard crâne sous sa frange. Et là encore, il me semble qu'en fait elle se construit son propre groupe, sa propre communauté, à commencer évidemment par celle qu'elle forme avec Tinguely, qui est un peu plus qu'une communauté, qui est une sorte d'alliance gémellaire, siamoise, qui invente là encore une nouvelle formule amoureuse extrêmement, extrêmement belle, joueuse et libre et en même temps inaltérable. Et qui, précisément, là encore, met à mal les rôles traditionnels de la muse et du créateur, ou du masculin et du féminin, qu'il joue, qu'il met en scène, tout comme le duo de l'aristocrate et du prolétaire, mais qu'en même temps, il ne cesse de perturber. Elle a cette formule très belle, elle dit qu'ils étaient l'un et l'autre une amplification l'un de l'autre, que leur vie entière, ils se sont hissés une marche plus haut. Et leur histoire repose en fait sur le jeu, principalement sur le jeu et sur ce que les Grecs anciens appelaient l'agone, c'est-à-dire un grand combat, là encore, mais qui se joue entre rivaux et donc sur un socle très solide d'admiration et de rivalité. Et autour de ce duo ou de cette alliance siamoise se constituent d'autres communautés, d'autres collectivités, comme celle notamment du Jardin des Tarots.
Merci beaucoup, Gwenaëlle Aubry, de nous avoir fait voyager dans la vie à la fois sombre et colorée de Nikita Saint-Phalle. Je rappelle votre livre « Saint-Phalle, monter en enfance », paru aux éditions Stock. Je précise également que les 3 tomes de l'autobiographie de Nikita Saint-Phalle sont toujours disponibles aux éditions La Différence.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires qui ont marqué l'histoire. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le destin d'un résistant algérien contraint de s'exiler en France après avoir mené une lutte armée contre l'invasion coloniale française. Son nom, l'émir Abdelkader.
Oui, Stéphane, alors ça va nous changer grandement des super nanas de Nikita Saint-Phalle, mais il s'agit aussi, d'une certaine manière, d'un superman. Hein. Parce que, voyez-vous, avant de devoir rendre les armes le 23 décembre 1847, Abdelkader, chef guerrier, savant religieux, sultan d'un éphémère état arabe d'Algérie, a combattu pendant 15 ans les troupes coloniales françaises. Et à cette époque, sa reddition a été vécu comme un événement considérable qui a enthousiasmé les Français parce qu'à partir de cette date, l'Algérie devient vraiment française. Une colonie française. Oui. Et c'est le duc d'Aumale, merveilleux personnage que nous admirons tant, fils du roi Louis-Philippe, qui alors a succédé au général Bugeaud à la tête des troupes françaises et c'est lui qui reçoit la reddition d'Abdelkader et qui s'engage au nom de la France à lui permettre de s'exiler en pays musulman. Donc lorsqu'il embarque pour Toulon avec sa famille, Abdelkader s'attend à ce qu'on l'envoie en Orient quelque part, en Turquie, en Égypte. Mais la France ne tient pas parole. Et l'émir vaincu ainsi que ses proches vont devoir passer 5 ans en captivité en France. Abdelkader et toute sa famille vont être détenus successivement au fort de Lamalgue, près de Toulon, au château de Pau, puis au château d'Amboise. Alors, il est évidemment terriblement choqué par cette trahison. Au point qu'à Toulon, il refuse toute sortie. Il fera juste une visite de l'arsenal. Et par ailleurs, il est détenu dans de très mauvaises conditions. Il partage sa chambre avec plusieurs des siens. Le froid est tel qu'il va perdre un fidèle, le chef de son infanterie, et un enfant de sa suite qui mourra asphyxié par un brasero. Et pendant toutes ces années, il vit dans ces lieux de captivité qui ont l'air, bon, le château sur le papier, évidemment le château d'Amboise ou le château de Pau, ça a l'air pas mal, mais en fait c'est très inconfortable. Il vit assez modestement avec les sommes allouées par la France et il est gardé très sévèrement. Et qui sera finalement son sauveur, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, devenu président de la République, qui est indigné par l'attitude de son pays, de notre pays, et il vient annoncer sa libération aux prisonniers au château d'Amboise. C'était le 16 octobre 1852, et il l'invite à Paris. Et entre les deux hommes, l'entente est immédiate. D'autres m'ont renversé et emprisonné, mais Napoléon est le seul qui m'est conquis. C'est beau, voilà ce que déclarera l'émir. Il arrive à Paris le 28 octobre 1852. Alors là, on lui fait une réception grandiose. Le soir même de son arrivée, il est invité à l'opéra. Il va être reçu au château de Saint-Cloud. Il reçoit aussi la visite d'anciens officiers de ceux-là qui ont été ses prisonniers en Algérie et qui voulaient le remercier pour la façon élégante et pour la façon humaine dont ils avaient été traités. Et il y a une chose qui a beaucoup surpris Abdelkader lorsqu'il a visité Paris, c'est le nombre d'églises. Il était extrêmement étonné que le peuple français soit un peuple aussi religieux. Il ne s'y attendait pas. Il va aux Invalides, il s'incline sur le tombeau de Napoléon, il est autorisé à toucher l'épée de Napoléon. Entre grands combattants, on donne des privilèges particuliers. Et devant les étendards qui lui avaient été pris au cours des combats, Abdelkader déclare « Ces temps-là appartiennent au passé, je souhaite les oublier, tâchons toujours de vivre dans le présent ». Finalement, il partira en Turquie, puis à Damas en Syrie, où il va enseigner la théologie. Il reviendra juste à Paris pour l'exposition universelle de 1955. Mais il y a des circonstances dans lesquelles il a manifesté son amitié pour la France de façon grandiose. C'est en juillet 1860, il va s'opposer au massacre des chrétiens à Damas. Il convoque tous les Algériens de Damas, un millier d'hommes, et interpelle en ces termes le consul de France. « Tu m'as dit que partout où flotte le drapeau français, c'est la France. » « Oui, lui répond le consul, alors prends ton drapeau et plante-le sur ma maison pour qu'elle devienne la France. » Hein ? Ça, si c'est pas beau ça. Après ces événements de Syrie, il va recevoir les insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur. L'Algérie le considère comme le père de la nation et en juillet 66, 4 ans après l'indépendance de l'Algérie, les cendres de l'émir ont été rapatriées en Algérie et il repose au carré des héros du cimetière d'El Alia en Algérie. Et dans la capitale algérienne, sa statue occupe celle qu'occupait celle du général Bugeaud du temps de l'Algérie française. Côté français, non seulement Abdelkader est considéré comme un ami de la France, mais ses descendants ont versé leur sang pour elle, puisque parmi les descendants de l'émir, 6 ont fait Saint-Cyr ou l'école de l'air, et l'un d'eux, Ali, est mort pour la France en 1949 pendant la guerre d'Indochine. Enfin, à Paris, une place émir Abdelkader, ami de la France, a été inaugurée en novembre 2006 dans le 5e arrondissement par Bertrand Delanoë, qui était alors maire de Paris, en présence de l'ambassadeur d'Algérie et des descendants de l'émir. Voyez, Abdelkader, un très grand homme pour qui France et Algérie partagent une même admiration. Et donc, il est bon de souligner parfois que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise.
Merci, fort utile. Merci, Clémentine.
Très beau message. Vous restez avec nous, car Abdelkader était un grand guerrier. Mais là, maintenant, ce sont deux guerriers avec qui nous avons rendez-vous pour la 250e de Bern to be Alive.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Alors là, on va raconter ce qui se passe. Stéphane est en train de prendre des photos en douce de Clémentine Portier-Kaltenbach pour prouver, je cite Stéphane, qu'elle ressemble bel et bien à Nana Mouskouri.
Oh non, écoutez les gars, dites pas ça à mon mari, il va partir en courant.
Mais pourquoi mais Nana?
Oh non, c'est une belle femme, Nana. Oui, bien sûr. Magnifique femme,
Stéphane.
Oui. Vous, hein, vous enfin, quel âge a-t-elle maintenant? Plus de 80, 85 ans.
C'est rien du tout. Stéphane, Nana, jouons à Bern to be Alive. Question numéro 1, Stéphane, je vous rappelle que c'est la 250e édition de notre quiz, Stéphane. Donc c'est important de marquer les esprits par une victoire aujourd'hui. Stéphane, si je vous dis que dans le studio Coluche, nous sommes serrés en randonnion. Bon, c'est faux, mais mettez-vous une majuscule à oignon et mettez-vous un S à la fin d'oignon.
Bah, normalement, comme on connaît l'histoire de randonnion, oignon était un personnage, donc normalement, il faudrait mettre un... une majuscule, normalement.
Alors, en randonnion avec une majuscule et un S à la fin ?
Non, c'était un personnage qui n'avait pas de S. C'était Monsieur Oignon, il était capitaine général, je ne sais plus quoi.
Il était chargé du protocole et il mettait les gens en rang, comme dans Podane, en rang par titre.
Donc à l'origine, majuscule et pas d'S.
Vous avez gagné !
C'est une excellente réponse, Stéphane. Je vous félicite. Vous avez quasiment tout dit. On parle ici effectivement de Artus de la Fontaine Solaro, baron d'Ognon et seigneur de Vaumoise. Au XVe siècle, il organisait des banquets où on était disposé en fonction de son
rang. Croyez-vous que quand vous nous posez de vraies questions d'histoire, de ce genre-là, vous puissiez nous coller
quand c'est pervers qu'on ne comprend pas.
Silhouette, oignon, béchamel, soubise, tout ça, on connaît.
J'en ai fait un livre. Question. Antonomase.
Vous êtes si fort, Stéphane.
Non, pas fort.
Je tends à l'oublier.
Juste, oui, mais...
C'est l'imprégnation, l'imprégnation dans l'histoire.
Voyez, tout
de même, on en connaît un petit peu.
Parce que vous nous ridiculisez dans cette émission, mais bon.
En tout cas, c'est un point pour Stéphane. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Le 10 décembre 1898, c'est la fin du conflit hispano-américain. L'Espagne est contrainte de vendre les Philippines aux Américains 20 millions de dollars. Petit détail insolite, l'accord est signé au milieu du lac Taal, dans une barque avec seulement 4 personnes à son bord. Vrai ou faux ?
Écoutez, est-ce que l'échange a pu se faire l'entrevue entre Alexandre et Napoléon sur une barque, sur une barque, pour que ce soit en terrain neutre, comme les accords entre la France et l'Espagne étaient signés sur l'île aux Faisans. Oui, c'est crédible, une chose pareille, pourquoi pas.
Mais là, c'est un lac qui est où ?
Là, c'est un lac.
On est aux Philippines.
Pourquoi pas?
Mais
pourquoi en même temps? Alors, est-ce qu'il y avait des ennemis? Est-ce qu'il y avait des ennemis sur les on vend les Philippines et retrouve sur un lac pour signer l'accord de vente? Écoutez, je vais répondre oui, parce que j'en ai aucune idée, et que si c'est non, quel intérêt aurait la question?
Vous avez perdu.
La question a toujours un intérêt, quelle que soit la réponse. La particularité du lac Taal, c'est qu'il est dans une île et que le lac comporte également une île qui a également un lac dans lequel il y a encore une île. Pour résumer, aux Philippines, il y a une île dans un lac sur une île dans un lac sur une île.
Très bien.
Question numéro 3, Stéphane.
Passionnant.
Nous allons aller plus loin dans la perversité. Je crois que parmi les personnages cultes d'Historiquement Vôtre, il y a la Palatine.
Oui.
Charlotte Élisabeth de Bavière, qui a épousé le frère de Louis XIV. N'étant pas très aimée par Madame de Maintenon, elle ne sera plus la bienvenue à Versailles et devra donc vivre au château de Fontainebleau. Jusque-là, tout va bien. Mais, dans sa correspondance adressée à sa tante, elle se plaint de toujours tomber par hasard sur des gens forniquant dans les recoins du bâtiment. Et ça la contrarie vraiment. Vrai ou faux ?
Elle n'était pourtant pas... Elle n'était pas cubénie. Elle n'était pas...
Mais moi, ce
je crois que d'abord, elle n'était pas à Fontainebleau. Elle n'était pas beaucoup à Fontainebleau. Elle était dans son château de Saint-Cloud. Elle était au Palais Royal. Elle écrivait à sa tante d'un peu partout.
De Hanovre à toutes ses.
Oui,
toutes,
oui. Ouais.
40 pages par jour.
De Hanovre.
Ouais. Mais Stéphane, moi, je l'imagine plutôt en train de se plaindre que les gens défèquent dans les coins plus qu'ils ne forniquent.
Oui, alors ça
et
là, c'est
de toute façon,
je dirais que c'est faux parce que
c'est faux.
Il y a des choses qui me paraissent bizarres. Elle était à Fontainebleau, mais pas autant que vous le prétendez.
Je le dis, oui, ça c'est.
Et si elle était plus possible. À la cour, il y avait aucune raison pour qu'elle ait des gens qui forniquent au coin des couloirs.
Donc vous répondez faux.
Faux.
Vous avez gagné.
Et c'est une bonne réponse. Et vous avez été un peu aidé, il faut le dire, par Clémentine également, hein, qui vous a donné une petite information, car elle se plaignait de quelque chose, cette pauvre Charlotte. Elle se plaignait de ne pas pouvoir faire la grosse commission de façon détendue et sereine. Je vous passe le vocabulaire employé dans sa correspondance avec sa tante Sophie de Bohème, mais elle dit, je cite, qu'elle est obligée de garder son étron pour le soir et qu'elle n'est pas à son aise pour faire ce qu'il y a à faire quand son cul ne se repose sur rien. Voilà.
Oui, il y a un morceau d'anthologie, en effet, il y a un texte incroyable.
Je suis obligé de garder mon étron pour le soir. Ouais, ça, c'est un texte connu.
Ah oui, ça, c'est connu, d'accord. Oui, oui. Ah, vous ne le connaissez pas, visiblement.
J'en
ai fait une émission, un secret du soir, sur la princesse Palatine. C'est pour ça qu'il y a plein d'incohérences dans ce que vous vouliez me faire dire. Donc, je suis content de marquer le point et merci Clémentine de nous rappeler la grosse commission.
Question numéro 4 pour vous, Clémentine.
Oui, je ne sais pas si je préfère pas Nana Mouskouri.
En 1939, le gouvernement anglais, voyant la guerre arriver, a publié un dépliant à l'attention de la population pour leur demander d'arrêter de fumer d'abord en prévision du manque de cigarettes et aussi pour être en meilleure santé en vue de l'effort de guerre. Vrai ou faux ?
Je pense que ça peut être vrai parce que les Anglais ont aussi demandé, alors ça c'était quelque chose d'extrêmement cruel, mais d'euthanasier les animaux domestiques en prévision de l'effort qu'il faudrait faire sur les denrées alimentaires. Donc qu'on ait pu demander aux Anglais de tuer leur chat et leur chien, ça paraît tellement incroyable que le fait de leur demander de moins fumer en vue du rationnement, ça me paraît tout à fait possible et probable. Donc
vous
répondez oui.
Vous répondez oui. Vous voyez ça ? C'est oui. La cinquième question. Inutile, puisque vous avez perdu. Vous avez perdu tout en ayant pourtant de solides connaissances historiques sur l'avant-guerre en Angleterre. Non, il n'y a pas eu ce petit tract dont je vous ai parlé.
Rationnement du tabac.
Ils ont émis une circulaire demandant à la population d'euthanasier les animaux pour prévenir de la famine, en conseillant même d'utiliser un pistolet d'abattage.
C'est ce que je viens de dire.
Je sais, vous avez répondu.
Ouais. Vous auriez pu me filer un petit point là.
Et j'aurais pu, mais il était écrit en bas de mon quiz. Attention, c'est la 250e, faire gagner Stéphane.
Excusez-moi, d'accord.
Je n'ai pas eu besoin, vous avez gagné tout seul, Stéphane. Mais sinon, je serais intervenu. C'est une victoire tout à fait à la loyale.
Triomphale.
Stéphane, pour cette 250e. Bravo.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui n'a pas vu passer le temps, votre compagnie qui fête déjà sa 250e.
Quelle folie, Stéphane. Et c'est vous qui m'avez dit, Mathieu, pour fêter ça, il nous faut des gonzesses.
Non, Mathieu, non. Je vous ai dit, profitons de cette 250e pour rendre hommage aux super nanas de l'histoire. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, vous en conviendrez. Et on a trouvé trois femmes dont on peut vraiment dire qu'elles sont des...
super nanas.
Oh oui, après Liquide Saint-Phal et ses célèbres nanas, vous allez nous parler, Stéphane, de super nana, une animatrice radio pas comme les autres.
Oui, l'une des... pionnière des radios libres, peut-être même la plus libre.
Allô ? Allô ? Allô ? T'es à l'antenne ? Allez, vas-y ma poule !
C'est elle, Super Nana. Et de votre côté, Mathieu, vous avez voulu, je sens, me faire plaisir. Et mon cadeau pour cette 250e s'appelle Nana Mouchkouri.
Oui, désolé, j'ai pas eu le temps de vous l'emballer, mais c'est l'intention qui compte. Nana Mouchkouri, des centaines de millions d'albums vendus et une femme que vous adorez, Stéphane. Je tâcherai de vous raconter son destin sans dire trop de bêtises. Vous me corrigerez, Stéphane.
Oh, j'ai toujours rêvé de vous corriger, Mathieu.
Bien. Sur ce, présentons rapidement nos chroniqueurs.
Oui, à commencer par David Castello-Lopez. David, vous nous racontez les origines d'une invention fort utile, le métro.
Tout à fait.
Fort utile quand on l'utilise, Stéphane.
Oui.
Ça m'arrive.
C'est quoi la station de métro la plus proche d'Europe, Stéphane?
Javel.
Ouais, c'est bien.
Oui, c'est vrai.
Mais je l'utilisais quand je jouais au théâtre.
Vous prenez le métro pour aller au théâtre?
Oui, parce que sinon c'est trop compliqué, vous savez, d'aller de chez moi.
Mais dans le métro, ça doit être insupportable pour vous, dire tout le monde.
Non, les gens se mettent devant vous et disent c'est fou ce que vous ressemblez à Stéphane Bern.
Oui, ils peuvent pas imaginer que vous êtes là.
Je ne dément pas. Je dis c'est vrai. On me le dit souvent. Voilà.
Ah oui, Olivier Poul, c'est là aussi.
Oui, on remonte aux origines d'une recette.
Oui, une panna cotta sur laquelle je mettrai donc 250 bougies tout à l'heure, si vous voulez bien.
Simple.
Elle va être molle.
Elle va être dans un sale état à la fin, la panna cotta. Enfin, les amis, ce sera pour moi un vrai cas de conscience pour la 250e. Et afin de les remercier pour leur travail, dois-je les laisser gagner dans la lutte finale? Ce quiz de fin d'émission dans lequel deux personnes qui n'ont pas fait Sciences Po luttent avec leurs armes à eux, comme elles peuvent, contre quelqu'un qui, lui, est sorti diplômé summa cum laude. Je me tâte encore. En attendant, découvrons notre deuxième super nana du jour. Elle a marqué l'histoire de la radio avec sa liberté de ton, son franc-parler et ses cheveux blonds peroxydés.
Laurence Ferrari.
Non, Stéphane, une autre super nana qui a malheureusement cessé trop tôt de parler dans le micro. Stéphane Bern, plus libre que jamais, nous raconte Super Nana.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Dans les années 80 et 90, Super Nana est une star. Elle est même plus que ça. Un symbole, une icône. L'un de ces personnages qui portent en eux toute une époque. Son vrai nom, c'est Catherine Pelletier. Elle est née en 1954 dans le Nord, ce qui ne lui fait pas plus de 25 ans lorsqu'elle débute une carrière sur les ondes, celle de Carbone 14. Nous sommes en 1981. François Mitterrand vient d'être élu président de la République et un vent de liberté souffle sur la France. Au mois de novembre, la loi qui libéralise les ondes entre en vigueur. Les radios libres sont créées Parmi elles, Carbone 14, bientôt la plus écoutée. Tout a commencé par une petite annonce dans le quotidien Libération. Radio dite libre cherche animateur ou trice pour s'en payer une tranche horaire pris en fonction de la pub ou pas. D'ici là, délire à gogo et à l'œil. Si tu as des idées originales et pas mal de temps libre, appelle Gérard. C'est le point de départ d'une aventure déjantée, trash, inédite. Dans les studios, c'est la folie, l'explosion permanente. Un bouillonnement d'inventivité et d'improvisation. Tout le monde est bénévole, tout le monde est excité. Des visiteurs entrent et sortent comme dans un squat. La bande d'animateurs a entre 20 et 25 ans et pas beaucoup de limites. Parmi eux, un certain Jean-Yves Lafesse qui teste ses premiers canulars entre deux appels d'auditeurs. Au plus fort de l'audience, ils seront jusqu'à 600 000 à les écouter chaque jour. Un soir, Catherine vient de se faire larguer, elle écoute la radio en pleurant. Lafesse parle de gros et de grosse, elle téléphone. « Je suis grosse, belle, curieuse et je baise. Et d'ailleurs, je vais venir vous séduire. » Catherine saute dans un taxi et débarque à 4 heures du matin. C'est le coup de foudre. La radio, c'est ce qu'elle veut faire. Elle quitte son job dans la banque et rejoint l'antenne. Elle devient Super Nana, une référence à la chanson de Michel Jonas, sortie 7 ans plus tôt.
« C'est juste une super... »
En peu de temps, sa voix gouailleuse, son ton direct, sa répartie précise entraînent les auditeurs. Super Nana est la révélation de la station, la vedette de Carbone 14. Avec sa grande gueule et ses cheveux courts, elle a quelque chose d'Arletty, qui d'ailleurs l'écoute et l'invite à jour à déjeuner. Super Nana anime la nuit, de minuit à 2h du matin, l'émission Poubelle Night.
Poubelle Night. Une radio de cons faite par des cons pour des cons.
Vous l'avez compris, le micro est ouvert, les gens appellent et racontent à l'antenne des morceaux de leur vie, leurs problèmes, leurs fantasmes. À l'époque, les femmes sont rares à la radio. Il y a bien Méni Grégoire sur RTL qui recueille les confidences d'une France et surtout des Françaises qui changent. Mais elles ne sont pas nombreuses à pouvoir réellement s'exprimer comme elles l'entendent. Super Nana, elle, est brute, sans phare. C'est la première qui a mis sa peau sur la table, dit Jean-François Galotte, alias David Grossex, autre animateur de la bande. C'est aussi ce qui fait d'elle très vite une égérie. À l'antenne, elle parle de tout et de sexe, beaucoup. Elle veut libérer la parole, celle des jeunes notamment, qui ne se sentent jamais représentés dans les médias. Carbone 14, c'est aussi des émissions aux noms évocateurs, comme 50 millions de voleurs et langue de pute, qui délivre les recettes pour ne pas payer son parc-mètre ou son électricité, ou sont entièrement dédiés à dire du mal d'hommes politiques en exercice. Le directeur de l'antenne s'en prend régulièrement directement à Mitterrand. Des lignes rouges sont franchies quand un couple fait l'amour en direct dans les studios ou quand la station diffuse les enregistrements clandestins des lignes téléphoniques de certains ministères. Alors, au printemps 1983, la radio n'a plus le droit d'émettre. Au mois d'août, les CRS débarquent dans les locaux, arrachent les fils, emportent le reste. L'aventure n'a duré que 2 ans à peine. Après une telle expérience libertaire, pas facile de retrouver un emploi. Super Nana part pourtant pour une autre radio, ici et maintenant, puis à Ligre FM. Elle tente de remonter Carbone 14 sans succès, s'essaye aussi à la chanson. En 1992, Super Nana arrive sur Skyrock, toujours la nuit. Elle a 40 ans, mais sa voix n'a pas pris une ride. Elle reçoit les confidences des auditeurs, elle les écoute un peu et les bouscule surtout.
Allô, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Bonjour, c'est Stéphane.
Oui, Stéphane.
Ouais, allez.
Comment ça va?
Ouais, super bien. J'aime bien quand tu parles comme ça.
Oui, parce que tu vois, parce que moi j'aime quand je te parle comme ça, personne n'écoute que nous.
Ah ouais?
Qu'est-ce que tu me racontes?
Ben, j'ai plein de choses à te dire.
Oui, alors vas-y.
Alors voilà, j'écoute la radio depuis minuit à peu près.
Oui, alors?
Et puis je vais te dire que c'est marrant, je trouve que toutes les filles qui passent à la radio, elles ont des voix sensuelles.
Oh oui, vachement.
Ouais. Et puis je les imagine, Yohann et tout ça, les filles. Puis ça me fait craquer.
Super Nana n'est pas vraiment du genre à chuchoter. Elle aime organiser ses mêlées, des débats entre 10 auditeurs. C'est un carton. Malgré l'heure tardive, Super Nana signe les meilleures audiences de la station. Un soir, elle croise Joey Star au bain douche, une boîte de nuit branchée de Paris. Elle veut inviter le duo de NTM dans son émission. « J'ai parlé de vous à mes patrons et ils font la gueule. Mais les mecs veulent me garder, je suis leur petit joyau. » explique-t-elle. L'affaire est conclue à une condition. Ne pas diffuser le titre, j'appuie sur la gâchette qui fait scandale. À l'antenne, Super Dana annonce l'interdiction en connaissance de cause. La censure, elle ne peut pas la supporter. Le message est passé. De partout, des auditeurs appellent et diffusent le morceau au téléphone en direct. Super Nana est trop libre, trop provoque. Au bout de 4 ans d'émission du soir, puis de fin de journée avec Turlututu, qu'elle co-anime avec Laurent Petit-Guillaume, ou le week-end, la direction de Skyrock trouve une excuse d'une interview où elle se moque gentiment du CSA pour la licencier. L'heure n'est plus à la liberté totale. À près de 50 ans, Supernana désespère de retourner un jour derrière le micro. Au début des années 2000, elle déplore aujourd'hui les nanas, on ne les laisse pas parler. L'époque a changé. La reine des radios libres s'éteint en septembre 2007 avec un grand regret, celui de voir disparaître avec elle le fol espoir des années 80, le rêve de voir les ondes véritablement libérées des contingences politiques et commerciales. De l'aventure Carbone 14, comme le concluait son acolyte Jean-Yves Lafesse, il ne reste rien à part la nostalgie.
Super Nana.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Super Nana, nous sommes avec celui qui a partagé le micro avec elle pendant de nombreuses années. Bonjour Laurent Petit-Guillaume.
Bonjour Mathieu, bonjour Stéphane, merci bonjour. Pour cette belle évocation.
Bonjour Laurent Petit-Guillaume.
Nouvelle émission, Petit-Guillaume, Super Nana, sur le tutu. L'émission qui a un chapeau.
Pour nous raconter vos histoires de turlututu, le téléphone 16 1 42 36 96 deux fois, le Minitel
3615 Skyrock
ou le fax pour vos jolis dessins.
Et oui, 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 on en reçoit des beaux. Et c'est quoi le fax? Parce qu'alors ça, je me souviens jamais.
42 21 99 99.
Et puis on a un numéro de téléphone aussi, le 36 68 14 15. Avec tout ça, démerdez-vous.
Allez, on y va, à qui le tour?
Allez, c'est à Maud. Allô, bonjour.
Laurent Petit-Guillaume, quel souvenir remonte quand vous écoutez ça. C'était Turlututu sur Skyrock en décembre 92.
Oui, parce qu'on faisait une émission la nuit avant et puis on nous avait interdit, hein, parce qu'évidemment, Supernana n'a aucune retenue. Voilà. Donc à un moment donné, il y avait eu un sketch. Alors le patron nous avait dit, bon alors maintenant vous arrêtez tout, on va faire une émission, vous n'avez plus le droit de dire tous ces mots que vous avez utilisés, Stéphane, tout à l'heure, en partie, hein, vous êtes quand même limité. Et donc il a dit, bah, on fait quoi? Bah, vous faites ce que vous voulez. Donc Supernana a eu l'idée de remplacer tous les mots qu'on n'avait plus le droit de dire par Turlututu, chapeau pointu, c'était la capote, etc., etc. J'en passe des
meilleurs. C'était codé, comme c'était une crypto-émission.
Voilà. Et puis donc, au bout de 15 jours, il nous a dit « Arrêtez, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait ?» Ben rien. Donc on a inventé le jeu du rien. Appelez-nous pour rien dire, on vous offre rien. Ça a cartonné et il nous a remis le soir. Là, on pouvait repartir et raconter n'importe quoi.
Alors, c'était quoi partager le micro de Supernana? Tout pouvait arriver, tout était improvisé, il y avait quand même une petite base?
Aucune base.
Non, rien, vous préparez.
Le travail, c'était moi l'appeler vers 16h pour la réveiller, puis vers 16h15, 16h30, 17h45, 18h, 19h.
Elle vivait la nuit, elle était
complètement dégagée. Complètement, et puis ensuite, elle arrivait, et elle demandait à ce que la porte du studio et de la radio soient ouvertes, pour que les gens puissent venir comme ils voulaient.
Librement.
Ouais. Librement. Donc tout le monde venait, des auditeurs, des artistes, des fous, des cinglés. Voilà, et puis ça se passait. Tous les soirs, c'était une aventure. Il n'y a pas un seul soir qui ressemblait à l'autre. Et on partait vraiment à chaque fois dans l'inconnu.
Mais Supernana est une pionnière des radios libres, une pionnière de la libre antenne sur Carbone 14.
Oui.
Avant elle, je l'ai dit, il y avait Méni Grégoire l'après-midi sur RTL dès la fin des années 60. Il y avait aussi... sur France Inter, Macha Béranger sur France Inter. Ouais. Elle était quand même plus trash, mais finalement tout autant à l'écoute des auditrices et des auditeurs.
Alors complètement, vous avez tout compris Stéphane, c'est-à-dire qu'elle avait un parler vrai, avec en second degré ou en troisième ou en seizième, des conseils pour remonter le moral des enfants, des jeunes qui nous écoutaient à l'époque. Il y a le sida qui traumatise toute une génération et elle, c'est son combat. Donc, parler vrai avec, certes, un langage relativement
fleuri,
mais avec derrière de la générosité, des messages énergisants, des envies de dire « vivez, amusez-vous, qui que vous soyez, vivez votre vie ». Et ça passait à travers tout ce qu'elle disait. Voilà, tout le temps.
Et ce qui est important de souligner, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que ce n'était pas juste une émission potage sans limite, il y avait un fond, il y avait une aide aux auditeurs, un lien, c'était donnant-donnant, c'était vraiment intéressant.
Et puis alors elle avait ce problème-là, parce que ça, c'était toute sa vie, elle donnait son numéro de téléphone portable à tous les auditeurs qu'elle est mal, elle leur donnait rendez-vous le lendemain pour les confidences, là cette fois-ci, devant un verre, ou même au téléphone pendant des heures. Donc c'était sa vie. Les gens, c'était sa vie. Aider les gens, leur donner le moral, les faire sourire, les provoquer aussi pour qu'ils réagissent ou elles réagissent. Et c'est la raison pour laquelle il ne se passe pas une semaine sans qu'on me parle d'elle.
Cette liberté de ton qu'elle avait, qui était quasi sans limite, ça correspondait aussi à une époque, les années 80.
Oui.
Avec le recul, vous dites que vous êtes allé parfois trop loin.
Oui.
Mais surtout, ce qui nous paraît fou, c'est que en fait, il y a ce qu'on appelle l'autocensure aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on
on a
reculé.
On n'a plus besoin de patron pour je dire
oui,
limite. Hein.
Oui, il n'y a pas de patron qui nous dit « vous allez trop loin ». C'est nous-mêmes, on se muselle finalement.
Bon, on avait quand même un patron, Pierre Bélanger, qui est quand même un peu connu pour faire des choses que les autres ne font pas qui nous donnait l'entière liberté.
Toujours le patron
vraiment. Toujours le patron de Skyrock qui nous disait « allez, enfin, qui lui disait « vas-y ». Et moi, il m'avait engagé. Pour dire bon,
pour la contrôler, pour,
voilà,
tempérer un peu les ardeurs de Supernova.
Je l'ai fait le premier jour. Hein. Après, je l'avais connu à l'époque de Carbone, donc je savais très bien que c'était une guerre perdue d'avance. Puis c'était pas une guerre puisqu'on était vraiment en face tous les deux et que bon bah elle m'a justement appris peut-être cette façon de faire de la radio aujourd'hui très libre que j'ai gardée, mais tout en ayant des limites comme vous d'ailleurs parce que les temps changent, tout va bien.
Oui, les temps changent, mais on se dit qu'en 40 ans.
Justement, cette année 2021, ça marque les 40 ans de la libéralisation des ondes par François Mitterrand. C'était quoi pour les gens qui l'ont pas connu l'esprit des radios libres quand elles se sont développées? Comment vous le résumeriez?
Déjà, tu frappes à une porte si tu as des disques, tu viens travailler, puis c'est tout. C'est la seule façon de se faire engager. Moi, après, j'ai fait la deuxième partie de Carbone 14. Alors là, je ne voyais même pas les patrons. Je ne sais même toujours pas qui était vraiment le patron. Donc j'y allais parce qu'on m'avait dit « t'as 2 heures ». Ouais, je fais 2 heures le samedi après-midi. Oui, on parlait.
Mais il y avait une excitation, j'imagine, de
bien
se libérer.
Oui, parce que
on avait l'impression d'être dans le truc, de faire partie du truc.
Parce qu'il y avait les vieilles radios historiques, et surtout, aucune référence à elles. Nous, on fait ce qu'on veut, une liberté sans limite.
Mais ça, parce que vous étiez animateur, mais quand
on était auditeur,
c'est-à-dire on sentait la différence. C'est-à-dire que vous, il y avait une efflorescence de radio. On tournait le bouton de notre transistor et on avait donné des, comment on appelle ça, des fréquences à des gens incroyables.
Et nous, on était la radio qu'on écoute en cachette sous l'oreiller le soir, sans que les parents justement le sachent.
Ouais. Il y avait, parce qu'il y avait tous les trucs sexuels, c'est-à-dire tous les jeunes sans qui avaient des problèmes. On parlait de fellation, on parlait de sodomie, je vais pas donner tout le programme, les gens appelaient et racontaient des trucs. Moi j'étais défrisé,
Mais ça se voit bien. Vous êtes défrisé.
J'étais choqué, je veux dire.
Et ça, on peut dire que c'est peut-être ce qui reste de cette liberté de ton là, ces émissions sur le sexe qui existent encore aujourd'hui à la radio. Il y en a quand même quelques-uns encore, des émissions où on parle comme ça, où les gens appellent pour raconter leurs problèmes.
La grande différence, c'est que les émissions où on parle de problèmes, elles sont maintenant avec un langage de jeunes que seuls les jeunes comprennent.
Nous, on n'avait pas
de langage de jeunes. Bon, on parlait un peu le verlan comme tout le monde, ou presque. Et on accueillait à l'antenne aussi bien des personnes âgées, parce que les personnes âgées adoraient Supernana. Ça, j'ai jamais...
Mais pourquoi elle n'a pas continué la radio après l'arrêt de
parce
votre émission?
Parce que plus personne n'a voulu de ça.
Elle faisait peur au directeur.
Oui. Ouais.
Merci beaucoup Laurent Petit-Guillaume.
Merci,
vous, Stéphane. Vous continuez à faire de la radio.
Oui, je fais attention maintenant.
Et on
je peux faire en garlandais de temps en temps.
On vous retrouve sur France Bleu du lundi au vendredi à partir de
9h. Merci Stéphane.
À tous les nostalgiques de Supernana, vous pouvez réécouter certaines de ces émissions sur un site qui est entièrement dédié, show-supernana.com.
Exact, bravo.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, pour la 250e d'Historiquement vôtre, on rend hommage aux supernanas de l'histoire. Après Nikki de Saint-Phal et Supernana, pionnières des radios libres, vous nous brossez, Mathieu, le portrait, j'espère pour une fois, 100% vrai, d'une amie tendre que j'aime, un monument de la chanson, Nana Mouskouri.
On va commencer par une mauvaise nouvelle, Stéphane, vous qui la connaissez bien. Saviez-vous que Nana a été dévastée par son divorce? Vous avez lu ça?
Non, mais elle n'a pas divorcé, elle est toujours André Chappelle.
Alors, je vous explique, c'est l'un des trois résultats qui tombe en premier quand vous tapez comme moi Nana Mouskouri dans Google Actu. Alors, je vous rassure, c'est un article de France Dimanche. Ah. Et quand on l'ouvre, on réalise que le divorce en question date de 1975. Une dévastation qu'elle a donc eu le temps de digérer, effectivement. Les deux autres résultats qui viennent en premier quand vous tapez Nana dans Google Actu étant, et je précise que c'est vrai, Nana Mouskouri, Instant de vie, un documentaire sur son incroyable carrière, Arte, et Chante et danse à l'EHPAD, la Nouvelle République. Contrairement à vous, Stéphane, qui situait parfaitement en Nana Mouskouri, je fais partie de ces gens qui, allez savoir pourquoi, ont toujours eu du mal à distinguer Mireille Mathieu, Nicoletta, Nana Mouskouri et Claude Barzotti.
Des artistes qui ont toujours fait partie
de nos vies, qui n'ont jamais été vraiment jeunes et qui ne sont pas tout à fait morts non plus. Évoquer la carrière de Nana, c'est plus de la musicologie, c'est de la paléontologie. Et pour cause, cette carrière démarre en 1958. Depuis, notre super Nana a enregistré près de 600 chansons en français, en anglais, en allemand, en néerlandais, en italien, en espagnol, en japonais, en gallois et même en hébreu. Nana, pourtant, à la base, est grecque. Elle est, pour faire court, la Madonna crétoise soft. Sans les strings ficelles qu'elle a remplacées par un look de directrice comptable d'un pôle emploi en Seine-et-Marne, dans l'émission Quotidien, en parlant de ses lunettes emblématiques, elle dit « Ça me protégeait un peu car je suis timide. Ouais, » Surtout, Nana, tu es totalement bigleuse. Myope et astigmate depuis l'enfance, Nana est plus bigleuse que Stéphane Nessour, ce qui n'est pas peu dire. Ceux qui suivent notre émission ont pu encore le constater dernièrement au détour d'une chronique d'Olivier Pouls.
Je vous ferai un guacamole, c'est un plat sympa.
Du plat sympa?
Non, c'est un plat sympa.
Ah, si c'était de l'humour. Si Stéphane... C'est pas un problème auditif. Hein.
Je sais, mais ça sonnait bien. Si Stéphane refuse encore l'appareillage, il y viendra. Nana, elle, s'est appareillée tout de suite et ça a créé le look Nana. Les lunettes à triple foyer, les cheveux raides, couleur ébène, indémodable, les lèvres teintées vermeilles. En 60 ans, Nana n'a pas bougé. À la recherche d'une formulation élégante pour qualifier l'épatante longévité de Nana Mouskouri, j'ai cherché dans sa bio sur le site gala.fr. Gala, magazine qui adore les stars transgénérationnelles. Hélas, de toute évidence, la rédaction de sa bio avait été confiée dans le creux de l'été à un stagiaire d'observation qui écrit donc ceci, accrochez-vous, c'est authentique. Nana Mouskouri, une personnalité internationalement connue et une artiste qui ne rajeunit pas, qui ne vieillit pas, Jordan. Hein, c'est justement ça que je voulais écrire. Petit con, va. Ne jamais confier la rédaction de la bio d'une star, voilà, à un millénial acnéique qui pense que Nana Mouskouri est un pseudo de star de porno japonaise. Penchons-nous donc sur la vraie vie de celle qui ne vieillit pas, Jordan. Johanna Mouskouri naît en 1934 en Crète avant de déménager à Athènes à l'âge de 3 ans. Et là, un petit cadeau sympatoche l'attend. Les nazis. Et oui, la Grèce est occupée par l'Allemagne. Son père est résistant et travaille sans relâche pour envoyer ses deux filles au prestigieux conservatoire hellénique d'Athènes. Sa sœur est douée en musique, mais voilà, Yona, elle, est très douée en musique. Ce qui explique aujourd'hui tout le monde se contrefout de cette sœur dont je n'ai même pas cherché le prénom et qu'on appellera juste la sœur Anana. Yona, qui n'est donc pas encore Nana, grandit entre les cours au conservatoire et la salle de cinéma où son papa exerce le beau métier de projectionniste et sa mère celui d'ouvreuse. Fascinée par la prestation de Judy Garland, son idole dans Le Magicien d'Oz, Yona s'investit de plus en plus dans le chant. Il faut dire qu'elle a un don unique, ce qu'on appelle une dissymétrie des cordes vocales. Mmh. Une malformation, si vous voulez, qui peut donner le meilleur comme le pire.
Sans contrefaçon, je suis un bourbon.
Pour Nana, ce sera heureusement le meilleur. Son asymétrie de la glotte lui permettra d'atteindre des notes extrêmement aiguës, ce qui plaira beaucoup aux nazis.
Oh non, non. Non, non.
Admirable! Sa voix est limpide comme du cristal.
Consciente d'être à part, Johanna décide alors de changer de nom et de se lancer. Elle devient Nana et commence par le jazz avec un quartet baptisé Les Athéniens. Son apparence dite coincée fait très vite sensation, un peu comme la catégorie non sur Pornhub. Forcément, coincée quand tu es chanteuse, ça intrigue, voire ça excite. Très vite, sa popularité grimpe en flèche. À tel point que le premier ministre grec l'embarque peu à peu avec elle dans ses voyages pour jouer les ambassadrices. Elle rencontre le gratin, se lie d'amitié avec Maria Callas, puis un jour, elle connaît la consécration ultime, celle qui a permis à Stéphane Bern lui-même de basculer dans une toute autre dimension de la célébrité, l'Eurovision. Nana devient la stigmate la plus célèbre d'Europe et enchaîne les tubes, l'enfant au tambour et le très engagé Je chante avec toi liberté, ancêtre de Saint-Denis Style. L'Olympia 1967 constitue un vrai tournant. Pourquoi ? Le public français adule Nana. Son atout, sa simplicité, son authenticité. Elle est l'anti-star avec ses lunettes et son petit ventre, puisque oui, Nana va monter sur scène enceinte de 5 mois. J'étais la première maman naturelle sur scène. Comme je portais aussi des lunettes, alors que personne ne portait des lunettes sur scène à ce moment-là, je crois que c'était ça ma présence, toujours et partout dans tous les pays. J'étais une fille simple et je ne voulais pas être autre chose. De 1968 à 1994, on peut parler de Nana Mania. Émission produite autour d'elle sur la BBC, place au Parlement européen avec le parti Nouvelle Démocratie. 400 millions de disques vendus, soit plus que Céline Dion et Madonna. Sky is the limit pour Magic Nana. Évidemment, toute carrière a ses zones d'ombre et Nana, toujours au four et au moulin, n'ayant même plus le temps de lire tous les contrats qu'on lui propose, se retrouvera, sans qu'on sache vraiment pourquoi, à chanter avec Dorothée. Vous vous souvenez de ça, David? Eh ben, c'était pas si nul finalement, c'était ouais. Un peu jazzy. Hein ? C'était un duo Dorothée-Nana Mouskouri. En 2007, Nana fait le choix qui s'impose quand on a vendu plus de 400 millions de disques. Elle s'installe fiscalement en Suisse.
Oui. Non, mais elle n'a aucune raison d'être en France puisqu'elle n'est pas française.
Oui, mais elle pourrait être en Grèce par exemple, Stéphane.
Oui, mais...
Non, oui, c'est exactement ce que son fiscaliste a dit. Oui, mais on y est si bien, pourquoi aller ailleurs? Oui, la Suisse, Nana s'y sent bien. Si bien qu'elle décide en 2008 de faire une pause dans sa carrière et de partir en pré-retraite. Mais voilà, ça ne lui plaît pas du tout. Ne plus chanter m'a coûté beaucoup et m'a profondément déprimé, avec le sentiment d'être inutile. J'étais tous les jours malade, c'est pour ça que j'ai décidé de repartir sur les routes. Ce sera le premier de ses 27 comebacks et de ses 14 vraies fausses tournées d'adieu, les plus lucratives, ajouterait avec un clin d'œil malicieux l'ambitieux Michel Sardou, l'inventeur du concept. En 2014, pour ses 80 ans, elle sort un album intitulé, tenez-vous bien, c'est créatif, Happy Birthday. 6 ans plus tard, elle repart en tournée et sort un nouvel album au titre en forme de Method Quay, Forever Young, où elle reprend Leonard Cohen, Bob Dylan, Serge Gainsbourg, Quincy Jones et Michel Legrand. Ça, c'est ma chanson préférée de Nina Mouskouri. Chanter me manquait, le public me manquait, la musique a toujours été mon moteur, je pense que je n'arrêterai jamais, nous explique Nana, qui ajoute avec un premier degré magnifique, je précise à nouveau que c'est authentique, « Je ne veux pas mourir sur scène, ça doit être très dur pour le public qui vous aime, mais dans les coulisses. » Oui, c'était une image, Nana. Va pour les coulisses, mais le plus tard possible. Stéphane, je sais que vous la connaissez tellement bien. C'est pourquoi j'hésitais à vous offrir une tribune à la fin de ma chronique afin que vous nous livriez une info en plus. Mais bon, depuis l'incident dit de Don Pedro Salinger, la rédaction en chef de notre émission m'a dit non, ne lance pas Stéphane sur des gens qu'il connaît soi-disant. Parfois, il les connaît moyen, en fait.
Gigi, vous savez ce que sont les
Gigi
prénoms?
Non. Vous le savez?
Oui. Jérôme Diego, non?
Jérôme Diego?
Oui.
Incroyable.
Oui.
Vérifions.
Je crois, je vais vérifier. C'est Jérôme David.
Jérôme Diego Salinger. C'est vrai, je vous pose une question. Connaissez-vous le deuxième prénom de Nana?
Bonjour, elle s'appelle Johanna.
Mais... Oui, c'est tout. On va s'arrêter là, c'est mieux.
Bon, en tout cas, merci Mathieu. Écoutez, il n'y a pas trop d'horreur sur ma copine.
À part l'extrait de Papy fait de la résistance.
Oui. Qui était mal placé, franchement.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos super Nana pour retrouver Mathieu, de super gars.
Oh, des mecs fabuleux, c'est vrai. Aux mœurs étonnantes, mais fabuleux. Olivier Pouls, vous êtes notre expert gastronomique et aujourd'hui, pour fêter cette 250e, vous nous avez offert une panna cotta.
Oui, un dessert classiquement italien, mais très bon.
En attendant, on prend le métro avec David Castello-Lopez.
Tout à fait. Alors personnellement, j'ai un peu oublié la campagne des municipales à Paris en 2014.
Moi aussi.
Mais il y a un truc dont je me souviens, c'est l'espèce de petit scandale autour d'une phrase de Nathalie Kosciusko-Morizet qui avait dit, je cite dans une interview, « Le métro est pour moi un lieu de charme, à la fois anonyme et familier. Je prends souvent les lignes 13 et 8 et il m'arrive de faire des rencontres incroyables. Je ne suis pas en train d'idéaliser le métro, c'est parfois pénible, mais il y a des moments de grâce. » Bon, Nathalie, elle a juste dit en gros, le métro, des fois c'est chiant, mais des fois j'aime bien. Ouais, c'est ça que veut dire sa phrase, quoi. Et pourtant, les médias et Internet se sont déchaînés contre elle. Dans la rédaction où j'étais à Canal+, à l'époque, tout le monde lui crachait dessus. Et moi, j'avais pas de personnalité, donc j'ai suivi le vent. Mais au fond, je m'en voulais un petit peu. Alors bien sûr, on voit ce qu'on lui reprochait. On lui reprochait d'être une bourgeoise qui parle d'une chose pénible qu'elle n'est pas obligée de vivre et qui en prélève une sorte de folklore superficiel qu'elle trouve sympa. Tandis que les gens pauvres, eux, ils n'ont pas le luxe de voir ces choses pénibles sous un angle esthétique. Bon, je veux dire, si elle avait dit ça à propos d'un bidonville africain, je veux bien, il y a des moments de grâce incroyables. Bon, là, non, ta gueule. Mais là, c'est, je veux dire, c'est banal et c'est mesuré comme phrase. Et comme 100% des phrases mesurées et banales, eh ben, c'est plutôt vrai. Oui, la ligne 13 à 8h30 du matin, c'est chiant, c'est nul. Mais on a tous vécu ces moments inoubliables dans le métro. Toutes ces fois en particulier où on a fait semblant de regarder par la vitre de la rame alors qu'en fait, on regardait le reflet de la jolie fille qui était en face de nous.
Moi, j'ai jamais fait ça.
Moi, ça, tout
jamais.
Le monde l'a fait.
Jamais, je tout le dis à la femme fait. Qui nous écoute, jamais.
Alors Nathalie, elle a peut-être exagéré en disant qu'elle prenait le métro souvent, mais je pense pas qu'elle a menti. Les gens connus prennent le métro aussi. Un jour, dans les années 90 par exemple, je suis entré dans la rame de métro à la station Rome à Paris, et j'ai vu qui ? Laurent Mariotte, que les auditeurs... et oui, que les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien. À l'époque, c'était une star de Canal J, hein, la télé pour les enfants, et il était là, il prenait le métro comme tout le monde. Stéphane Bern,
non, ça,
lui-même,
c'est dingue.
Stéphane Bern lui-même nous a dit, il prend le métro quelquefois pour aller au théâtre à Montparnasse. Mais alors, d'où ça vient ce moyen de transport utilisé par Nathalie Kosciusko-Morizet, Laurent Mariotte et Stéphane Bern ? Est-ce que vous savez dans quelle ville a été construit le premier métro du monde ?
Moscou.
Facile quand même, non ?
New York.
Non.
Paris,
non.
Londres.
Ah oui,
Londres.
Il est trop fort.
Il est trop fort,
Olivier Pouls. Alors, on parle souvent des embouteillages aujourd'hui, mais les embouteillages d'aujourd'hui, c'est vraiment de la gnognotte par rapport aux embouteillages du milieu du 19e siècle à Londres. C'était bien pire. Dans les années 1860 à Londres, à ce moment-là, Londres, c'était la plus grande et la plus riche des villes du monde. Et elle était dans un état permanent d'embouteillage inextricable avec des calèches, des chariots, des vendeurs de tout et n'importe quoi, des vaches. Et donc c'était super compliqué. Et à partir des années 1840, il y a un monsieur anglais qui s'appelait Charles Pearson et qui a dit, on connaît les chemins de fer, pourquoi on n'en fait pas sous la terre à Londres pour dégager les voies en surface? Et il a eu pas mal de mal à convaincre les autorités parce qu'on se disait que ça n'allait pas être possible. Mais finalement, la ville a fini par dire oui. Alors, le métro londonien, comme tous les métros primitifs, et comme d'ailleurs pas mal de morceaux de ligne à Paris, il a été construit le long des grands axes, juste sous la rue, avec une méthode très simple qu'on appelle le cut and cover. Vous creusez un grand trou dans une rue, vous posez les rails au fond du trou, vous fabriquez ensuite une voûte en briques par-dessus, et puis vous bouchez le trou, vous mettez de la terre par-dessus la voûte, et ensuite vous reconstruisez la rue, l'asphalte par-dessus. Alors ils y sont arrivés, et la première ligne de métro au monde, elle a été inaugurée à Londres le 9 janvier 1863. Ça fait quand même ultra longtemps, il y a presque 159 ans. Alors c'était pas comme maintenant, hein. c'était des wagons en bois, à ciel ouvert, tiré par une locomotive à vapeur. Donc faut imaginer, vous prenez le métro, il y a un vacarme de dingue, il fait ultra froid, on est au mois de janvier à Londres, et vous prenez de la vapeur dans le visage, et donc c'était ça, voilà, le moment de grâce, je sais pas s'il était très fort à ce moment-là, quoi. Mais ça a quand même été un succès immédiat. Le premier jour, il y a eu 30 000 personnes qui l'ont pris, plusieurs millions la première année. Un peu plus tard, on a inventé des machines pour creuser des tunnels sous la ville, ce qui a permis de mettre des lignes de métro beaucoup plus bas. Et aujourd'hui, il y a 182 villes dans le monde qui ont un métro, 182 endroits où des ministres sont susceptibles d'être touchés par la grâce. C'est quand même pas mal. Voilà.
Et nous, il y a un nom qu'il faut quand même citer, c'est Fulgence.
Bienvenue. Fulgence. On dit Fulgence ?
Moi, je dirais Fulgence, bienvenue, mais...
Qui est le monsieur qui a vraiment installé le métro à Paris. Tout petit monsieur, grand comme ça, avec une barbe.
C'est pour ça que la station s'appelle Montparnasse, bienvenue. Les gens croient que c'est pour se souhaiter la bienvenue
à
Montparnasse.
Voyageur, pas du tout.
Il y a un tréma sur le U.
Ça m'a toujours troublé. Je me dis, mais pourquoi ils ont raté l'orthographe? C'est dommage, t'arrives de Bretagne et tu vois ce bienvenue qui est mal orthographié, c'est bizarre.
Vous arriviez de Bretagne ce jour-là.
Ça m'est arrivé, oui.
Merci David. On retrouve ces passionnantes origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure, Stéphane, l'heure de la panna cotta. Olivier Poul, c'est là qu'il nous raconte l'origine de cette recette typiquement italienne.
Je suis sûr, Stéphane, que quand vous allez manger dans un restaurant italien, une pizzeria, vous prenez toujours une panna cotta en dessert.
C'est bon. Et derrière la pizza, c'est vrai que c'est toujours bon pour finir en beauté. Quoi.
Mais détrompez-vous, la panna cotta n'est pas une préparation aussi riche qu'on pourrait le penser. Il y a dans la panna cotta, effectivement, un peu de crème, mais pas forcément beaucoup. Et je vous donnerai tout à l'heure une recette de panna cotta assez light. Mais surtout, il y a un gélifiant. Et c'est beaucoup moins riche, par exemple, que, vous savez, les petites pots à la crème qu'on mange plutôt chez nous, en France, là, pour le coup. Des crèmes prises avec des œufs, avec des jaunes d'œufs, et qui sont beaucoup plus riches que n'est une panna cotta. Alors, le panna cotta, c'est évidemment l'un des... quitte à me fâcher un peu avec eux, l'un des rares très grands desserts italiens. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas tant que ça, en tout cas pas autant que chez nous. Et avec le tiramisu, c'est en général ce qu'on nous propose en fin de repas. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ça. C'est un plat qui serait a priori originaire de la région des Langhe, qui se situe dans le Piémont, dans le nord de l'Italie, et qui aurait vu le jour au 19e siècle. Alors on l'attribue, mais sans être tout à fait certain, à une cuisinière hongroise qui aurait réalisé cette recette pour en fait utiliser des excédents de lait. Alors la panna cotta de l'époque n'était pas tout à fait celle d'aujourd'hui, et vous allez le voir. D'abord, il n'y avait pas de sucre, parce que le sucre était un produit très rare et très cher, et que dans les campagnes italiennes, on n'en avait pas. Mais surtout, on n'avait pas de gélifiant tel qu'on l'a à l'heure actuelle.
Mais pas d'agar-agar.
Non, on n'avait pas d'agar-agar. Et donc, on utilisait un bouillon d'arêtes de poisson ou éventuellement d'eau de veau, parce que en concentrant les bouillons de ces deux produits, on obtient de la gélatine, une gélatine naturelle d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui beaucoup de gélatine...
Mais sans goût de poisson ou de viande?
Malheureusement, je pense qu'à l'époque, on n'avait pas tout à fait les méthodes pour tout enlever. Bref, ce n'était pas une panna cotta très funky. Alors, on avait beau mettre dessus un petit peu de coulis de fruits, on était quand même loin du dessert qu'on peut faire aujourd'hui. Traditionnellement, on prépare, non pas comme chez nous, des petites panna cotta individuelles, mais c'est des grands plats dans lesquels on coupait des tranches qu'on vous servait et ensuite on les agrémentait généralement de coulis de fruits rouges. Moi, je vais vous donner deux idées de panna cotta. Alors la première, c'est une panna cotta légère, pour Stéphane et Mathieu peut-être aussi. Je pense que notre ami David n'a pas vraiment de problème de... Hein ?
Oui, mais il fait attention quand même.
Je fais attention, mais on a mangé des plum cakes à 400 calories et 100 grammes au jour. Donc,
on s'en est bien sorti quand même. Hein. Alors pour une panna cotta légère, on va utiliser de la crème liquide allégée, de la crème légère, on en trouve, et un peu de lait entier. De la gélatine, donc 40 centilitres de crème liquide, 10 centilitres de lait, ça nous fait 50 centilitres en tout. 3 feuilles de gélatine, un peu de sucre, 50 grammes, et une gousse de vanille. C'est hyper simple à faire. On porte le lait et la crème à ébullition, on récupère les graines de vanille, on fait infuser tout ça pendant une vingtaine de minutes. on réchauffe, on rajoute le sucre, on fait tremper la gélatine dans l'eau, on les sort, on mélange le tout, et puis il n'y a plus qu'à couler ça dans des petits verres ou dans un grand plat, comme on veut. On laisse prendre au four, il y en a pour à peu près 2 heures, de manière à ce que cette préparation soit prise et que vous ayez la texture souhaitée. Et puis, rapidement, si vous voulez faire une version salée de la panna cotta, vous pouvez...
Avec des arêtes de poisson.
Non, vous enlevez évidemment la vanille, mais vous remplacez le sucre par du parmesan. Et là, vous allez avoir une crème goût parmesan que vous allez saler très légèrement et que vous pouvez, par exemple, accompagner d'un coulis de tomate. Et ça vous fait plutôt une entrée. Oui, ouais, on a la texture de la panna cotta, le goût du parmesan, le coulis de tomate, un petit peu de basilic par-dessus. Et là, je pense qu'on a une entrée assez sympa.
Quelle imagination.
En même temps, j'ai tellement faim, je boufferai n'importe quoi. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr. Et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1.
Et tout de suite, plus de panna cotta, debout les forçats de la faim. Vous allez vous affronter sur des questions d'histoire, c'est la lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors, vous connaissez le principe de la lutte finale. Trois questions, une pour chacun. Et si vous êtes à égalité, il y a des partages avec une question de précision. Il faut se rapprocher de la bonne réponse. Olivier, je commence avec vous. Vous nous l'avez déjà dit ici, Olivier, la salade César ne vient pas de Jules César, mais d'un Italo-Américain, César Cardini, n'est-ce pas?
Oui.
Mais le laser... Est-ce qu'il y a un monsieur laser?
Je crois que oui. Je ne laisse pas entretenir le suspense, je dis oui.
Ben non, c'est un acronyme.
Light Amplification by Stimulated Emission.
Heureusement que tu n'as pas fait planer le suspense.
Si j'avais révisé toutes mes chroniques de David Castello-Lopez, je m'en souviendrais parce qu'il l'a dit, il l'a fait.
Il y a un monsieur Diesel, mais il n'y a pas un monsieur Diesel.
Oui, c'est un acronyme, c'est vrai.
Alors, David, on a retrouvé dans les carnets intimes du grand poète national Victor Hugo cette touchante confession. C'est fatigant de faire l'amour 3 fois par jour. C'est vrai ou c'est faux?
Dans cette confession, dans les journaux de Victor Hugo?
Oui.
J'ai l'impression qu'il avait tellement conscience du fait que c'était un grand homme et un grand machin qu'il aurait, je sais pas s'il aurait traîné quelque chose comme ça dans un de ses journaux intimes. Mais peut-être que si... Allez, oui!
C'est bonne réponse.
Bonne réponse. Mathieu.
C'est tout, on n'a pas d'anecdote qui suit.
Il n'y a
pas d'anecdote, c'est vrai.
Non, mais il notait dans ses carnets toutes les étreintes sexuelles.
Oui, et il notait les conquêtes,
qu'elles soient tarifées ou pas, ou qu'elles soient mineures ou majeures, parce que aujourd'hui, il serait en prison, MeToo. Mathieu, Françoise de Foix a eu pour amant François Ier, mais aussi l'amiral de Bonnivet. Un jour que ce dernier était dans sa chambre, le roi toqua à la porte. L'amiral va se cacher dans la cheminée. Une fois que François Ier a honoré sa maîtresse, il se soulage dans la cheminée justement, là où était caché l'amiral. Vrai ou faux?
Ah, écoutez, c'est tellement tortueux que je n'envisage pas que ce soit faux. Parce que pour imaginer ce scénario qui est digne d'une pièce de boulevard, je dis vrai.
Et oui, c'est ce que raconte le célèbre Brantôme, Pierre de Bourdeil, dans ses souvenirs. Alors, la question qui va départager maintenant, David Castello-Lopez et Mathieu Noël. La réponse la plus proche remporte la lutte finale. À la Convention nationale le 15 janvier 1793, on vote pour la mort du roi Louis XVI. Bon, je vais spoiler un peu, il se fait guillotiner 6 jours plus tard, ça vous le savez. Sur 721 votes, combien se prononcent pour la peine de mort?
721 votes.
Combien?
362.
Et vous?
685.
Non, c'est Mathieu qui gagne, évidemment. Bah, 387.
Ça a été gagné de très peu.
C'est
moi, je ne savais pas
que c'était très peu.
Ah, tu pensais que je vous avais tous voté la mort du roi? Genre, allez,
Et ce qui a fait scandale, c'est que son cousin a voté la mort du roi. Et que c'est ce qui a fait basculer le vote.
Non, voilà, alors là, c'est vraiment une absence de connaissances historiques. C'est vraiment à la régulière.
Bravo, Mathieu.
Pour la 250e, j'ai gagné. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Pas n'importe lequel, en effet, puisque nous fêtions aujourd'hui notre 250e émission.
Vive la vie, que c'est bon là.
Que c'est bon de vous retrouver chaque après-midi, Stéphane.
Oh, je dois partager, Mathieu. Vous êtes vraiment un complice parfait. Et sans cesse renouveler cette joie, parce qu'on recommence demain.
Mais bien sûr, à demain, Stéphane. À demain, les amis.
À demain, Mathieu. À demain, les amis. À demain, chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.